Non.
Ah non.
Non.
Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
Et bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, un fantôme, on est ici pour avancer.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce Canu Info du jeudi 25 février 2021. Et dans cette émission ce soir, nous allons vous parler avec Laurent de Nucléaire, un anniversaire peut-être à fêter, ou une date en tout cas, 40 ans. On parlera d'environnement et puis plus particulièrement d'escroquerie gouvernementale avec toi Laurent. Nous parlerons aussi avec toi de monde de merde avec ce titre « Balance ton dealer ». J'attends donc le sujet. Nous parlerons aussi d'Allemagne et de Syrie. Et au milieu de ces sujets, je parlerai Cantoche et Barbac. Je reviendrai sur cette presse qui nous a beaucoup parlé de cette affaire des menus dans les cantines scolaires. Donc tous ces sujets vont être bientôt découlés dès que Laurent pourra s'assurer que la technique ça marche. Alors Laurent, donc toi tu voulais nous parler ce soir de nucléaire.
Parce que c'est moi qui commence, c'est ça ?
Eh ouais, c'est ça. Ouais.
Alors oui, une petite info que vous avez peut-être entendue aujourd'hui, puisque l'autorité de sûreté nucléaire s'est exprimée. On va parler des 32 réacteurs de 900 MW d'EDF qui sont les plus anciens encore en fonctionnement aujourd'hui en France. Alors, ils avaient été initialement prévus pour fonctionner 40 ans. Alors, cette valeur, elle a été calculée à la louche, hein, faut quand même le savoir. Grosso modo, on ne connaît pas beaucoup de systèmes techniques complexes comme les centrales nucléaires, avec pas mal de systèmes entièrement mécaniques, une partie électromécanique, de l'électronique et de l'automatisme, durée 40 ans. En général, ça tient pas ce temps-là, la mécanique ça s'use, l'électronique ça vieillit, même si c'est plus fiable que la mécanique. Voilà, pour se remettre une idée en place, hein, il y a 40 ans, les gens qui avaient des bagnoles, ils roulaient en Renault 5 ou en Renault 9. Voilà, si vous en voyez une aujourd'hui, en général, ça ressemble à une épave, hein, plutôt. Pour situer un peu les choses, il y a 40 ans, c'est le moment de la sortie officielle du premier ordinateur PC, personal computer, avec un microprocesseur, un 8088, ridicule, qui allait à 4,7 MHz, on est en giga aujourd'hui, hein, 16 kilo octets de mémoire vive, de RAM, et pas de disque dur, hein, des disquettes. Donc voilà, il y a 40 ans. Ça vous donne une idée de la gueule, de l'état de l'outil technique que sont les centrales nucléaires, même s'il y a eu des mises à jour, mais une mise à jour sur un système vieux, c'est un système vieux mis à jour, pas plus. Bref, 40 ans, pour un système technique, c'est quand même énorme. Même s'il y a des contre-exemples, hein, des choses qui survivent 40 ans, on a des gramophones, des machins qui datent d'il y a 100 ans, mais enfin, c'est pas top top, et quand ça tombe en panne plus facilement, mais c'est pas grave. Alors qu'une centrale nucléaire, ça l'est un peu. Bon, du coup, quand même, l'autorité de sûreté nucléaire, la SN, le fameux soi-disant gendarme du nucléaire, qui est tout sauf indépendant en fait, a confirmé donc la prolongation au-delà des 40 ans de ces réacteurs de 900 MW. Donc la SN a publié aujourd'hui cette décision qui était très attendue, sans aucune surprise, concernant donc ces fameux 32 réacteurs qui ont essentiellement été mis en route dans les années 80. Pour ce qu'il en est d'aujourd'hui, puisque les tout premiers qui avaient été mis en route dans les années 70, notamment les 6 réacteurs graphite gaz, ont été arrêtés il y a bien longtemps, et ils n'ont jamais été démantelés, puisque EDF ne sait pas faire. Donc on a 6 réacteurs arrêtés depuis des années, et qui attendent on ne sait quoi. Ouais. Alors l'ASN a fixé dans ce texte les conditions pour que les réacteurs puissent fonctionner au-delà de leur quatrième réexamen périodique, c'est comme ça que ça s'appelle, les visites dites décennales, celles qui ont lieu tous les 10 ans. Donc pour aller jusqu'à la fin des années 2020, ou plus loin, peut-être 2030, si ça ne pète pas d'ici là. L'ASN, je cite, considère que l'ensemble des dispositions prévues par EDF, et celles qu'elle prescrit elle-même, en plus d'EDF, ouvre la perspective d'une poursuite de fonctionnement de ces réacteurs pour 10 ans, au moins, qui suivent donc leur 4e, leur 40e année, grosso modo. La SN prescrit la réalisation d'améliorations majeures de la sécurité prévues par EDF, donc elle les valide et elle les dit bah, « faut le faire », ainsi que quelques trucs en plus qu'elle rajoute. Et donc tout va bien. Enfin bon, on les croit. Hein. On ne peut que croire et pas constater scientifiquement que c'est vrai, le nucléaire étant quand même un truc un peu secret. EDF donc devra réaliser une série de tests et de travaux pour améliorer la sécurité de ses réacteurs. Ça c'est le terme officiel que dit aujourd'hui la SN et que je continue de les citer. Je vais citer Julien Collet, directeur de l'autorité de sûreté nucléaire, qui dit « Un premier objectif est de réduire les conséquences des accidents et notamment des accidents graves. Avec les accidents graves, c'est avec la fusion du cœur du réacteur. Des améliorations sont prévues pour que la radioactivité reste confinée à l'intérieur de l'enceinte en cas d'accident, ce qui ne s'est pas passé à Fukushima ni à Tchernobyl. Le deuxième grand volet d'amélioration porte sur le renforcement aux agressions qui pourraient survenir, donc des actes de terrorisme ou des actes naturels comme un séisme, tremblement de terre. On sait que c'est le tremblement de terre hein, qui a scratché réellement les centrales de Fukushima et le tsunami, c'est que le deuxième effet qui se coule, dirons-nous. Mais c'est bien le tremblement de terre qui est à l'origine des problèmes, qui est d'ailleurs même à l'origine du tsunami aussi, vous me direz. Et un dernier volet, le renforcement des fameuses piscines d'entreposage des combustibles usés, puisque si vous faites tomber un avion dedans, vous mettez de la radioactivité partout, et là, pour l'instant, elles ne sont pas protégées, elles sont à l'air libre. Voilà. Alors, ils nous disent donc que tout va bien, ça concerne notamment la centrale du Bugey, hein, celle qui est à côté de Radio Canu, enfin, à 30 bornes de Radio Canu. Donc, ils essayent de nous rassurer. Alors, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils nous disent... Je cite toujours, « La mise en œuvre des améliorations prévues va maintenant s'étaler. » Alors moi, j'avais compris que c'était déjà fait, en fait, que ces améliorations étaient faites et que tout était bien. Non, pas du tout. Elles vont s'étaler. Ah, mince, ça veut dire que pour l'instant, ça craint toujours. Eh oui. Bref, aucune de ces vieilles centrales ne répond réellement aujourd'hui aux nouvelles normes de sécurité du nucléaire, les normes qui ont été édictées, rédigées après la catastrophe de Fukushima. Donc l'ASN s'en fiche totalement, valide quand même le fonctionnement de ces dangereuses centrales nucléaires en disant « mais vous inquiétez pas, EDF va continuer leur mise à niveau. » Voilà, va continuer leur mise à niveau. Pourtant, l'ASN reconnaît le danger. Je cite, à un moment, c'est Bernard Dorotzuk, j'espère que je ne me trompe pas trop dans son nom, qui est le président de l'ASN, qui lui dit « Il y a encore des points de faiblesse sur l'état des matériels importants pour la sécurité. Ah bon, merci. Et donc, une vigilance à avoir. Bon, très bien. Il dit, tout n'est pas parfait, mais tant pis. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Aujourd'hui, en France, c'est encore 70% de l'électricité qui est d'origine nucléaire. On est censé passer à 50% d'ici 2035. En 2035, c'est à peu près au moment où presque toute l'Europe sera à 100% de renouvelables. Nous, on sera encore à 50% de pourri. Non. Donc voilà, ça nous rappelle aussi que ce qu'est en train de faire EDF par derrière, commander du matériel pour des futurs EPR, ça nous rappelle qu'il y a point de transparence réelle dans le nucléaire et point de démocratie puisque l'entreprise a déjà lancé la prochaine génération alors qu'on n'a toujours pas ni décidé ni voté quoi que ce soit sur la poursuite du nucléaire ou un changement de paradigme. Et puis, pour une deuxième info sur tout ce qui peut être radioactif, c'est la suite de l'info de décembre. C'est Engie, donc gros fabricant et gestionnaire d'énergie, du gaz, mais aussi d'électricité, notamment en Belgique. Ils ont encore des réacteurs nucléaires, au moins 7, 3 à Tihange et 4 à Doel. Et c'est à peu près, aujourd'hui, la moitié de la consommation d'électricité de la Belgique. On rappelle qu'à un moment, la Belgique avait en proportion plus de nucléaire que la France. Et la Belgique est déjà descendue à 50%. Nous, c'est en 2035. Hein. Même un petit pays comme la Belgique est plus performante que la France. Donc voilà. Et là, on a l'annonce officielle que Engie se débarrasse, arrête le nucléaire. Ça y est, c'est quasi acté. En tout cas, ça se voit de manière comptable. Alors... comment ça se voit? Parce qu'ils ont passé une provision de 1,9 milliard d'euros dans les comptes pour gérer la fermeture des centrales nucléaires. Donc d'ailleurs, pour la première fois depuis 2016, Engie va terminer avec une clôture négative parce qu'ils ont effectivement provisionné quasiment 2 milliards pour démanteler les 7 chaudières radioactives qu'ils possèdent. Alors, il faut savoir que ce n'est pas complètement un choix. C'est suite à l'élection du dernier gouvernement, donc d'Alexander De Croo, qui est arrivé en septembre dernier. Ils ont voté la sortie du nucléaire en Belgique, en disant qu'il faut changer de type d'énergie. Il y a pas mal d'incertitudes sur l'approvisionnement, sur la mise en œuvre, parce qu'ils vont vite et parce qu'ils n'ont pas mis forcément les moyens. Du coup, il y avait encore des doutes. Mais là, Engie dit non, mais nous, on ne veut pas de doutes. Nous, c'est soit on investit des milliards maintenant pour que ça fonctionne 10 ou 20 ans, soit on arrête. Et donc voilà, ils provisionnent pour arrêter. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour celles et ceux qui habitent pas loin des centrales nucléaires belges. Ils en ont plus que pour quelques années de risque énorme. Et puis après, voilà, la Belgique passera à autre chose. Les autres choses, ça va dépendre un peu de ce qu'ils vont décider au niveau du gouvernement belge. Donc voilà, c'est officiel, Engie sort, et ça se voit au niveau comptable, du nucléaire. Ils se positionnent depuis plusieurs années sur on ne fait pas de nucléaire, notamment en France, etc. Ils se décoincent avec ces centrales. On rappelle qu'il y a des bruits qui courent depuis très longtemps sur le fait qu'ils essayent de les vendre et qu'ils ne sont jamais arrivés à les vendre. Voilà. Donc là, le problème est réglé.
Tu avais encore des sujets environnementaux.
Ah oui, c'est encore à moi. Eh bien, alors, je vais reprendre une info qui est parue sur le site Reporter. C'est quatre organisations membres d'une structure qui s'appelle l'Affaire du siècle. Donc dedans, il y a Notre Affaire à tous, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace et Oxfam, qui ont commandé une nouvelle étude à un cabinet de conseil qui s'appelle le cabinet Carbone 4, un cabinet spécialisé dans l'environnement et dans la modification de nos pratiques environnementales, et notamment les choix énergétiques. Et alors, les résultats sont... pas prévisible, sans concession quand même, dirons-nous, la France ne semble pas structurellement en capacité d'atteindre ses objectifs climat à 2030. Alors ils mettent compte tenu des mesures déjà prises, donc ils tiennent compte de ce qui existe déjà. Alors ils détaillent ça, on est en retard, la France est en retard sur trois secteurs clés qui représentent la moitié des émissions, le transport, le bâtiment et l'agriculture. Donc c'est ridicule, hein, on est à la rue sur la moitié des efforts qu'on devrait faire. En fait, je vous détaille un petit peu ce qu'il y a dans ce rapport. 11 paramètres ont été choisis. Dans ces paramètres, on a, dans le gros transport, il faut une croissance du trafic ferré. On devrait passer à 20%. Pour l'instant, on n'est qu'à 10% dans les mesures. La part modale du vélo est censée monter. au moins 2,6%, on est aux alentours de 0,6% en France, et dans l'objectif du gouvernement, c'est 2,4%. Donc, même l'objectif du gouvernement est en dessous de ce qui devrait être fait. Sur la part des véhicules à faible émission, on est à 0,3%, les mesures d'État vont à 3%, et les objectifs pour arriver à ce qu'il faut, c'est 15%. Alors, il y a un objectif drôle sur le nombre de passagers par voiture. Vous savez qu'aujourd'hui, on est 1,69 par voiture. Enfin, pas nous, mais ceux qui ont des bagnoles. Et l'objectif, c'est de monter, de se rapprocher un peu de 2, au moins à 1,74. Même ça, la France ne l'a pas mis dans aucun programme. Donc, il n'y a aucune volonté de diminuer l'impact de la bagnole. Sur le bâtiment, sur les rénovations, il n'y en a pas beaucoup. Il faudrait qu'il y ait 4,5 millions de logements rénovés dans les objectifs 2030 climat. La France n'en a prévu que 2,7 millions. Il y a le type de chauffage. Alors sur l'agriculture, on a 15 millions de bêtes, de bovins actuellement en France. L'objectif, c'est de diminuer à 12,6 millions. On rappelle que ça a un impact énorme sur l'environnement, la consommation d'animaux morts, de viande. Et dans les objectifs, il faut diminuer notre apport de viande, notamment sur la viande bovine. Sur la volaille, par exemple, ça joue beaucoup moins, parce que l'impact environnemental de la volaille est beaucoup plus faible. Voilà, en mangeant moins et peut-être de la meilleure viande, de la viande de meilleure qualité, par exemple. Bon, là, on est à la rue, hein, il faut passer à 12,6 et le projet de l'État, c'est 13,7. Sur l'agriculture biologique, on est à 7%. L'objectif du gouvernement, c'est 19%. Et pour respecter les objectifs que la France a signés quand même en 2030, il faudrait 32%. Donc, on est ridicule. Voilà, donc, on est à la rue. Vous me direz, l'examen du projet de loi climat va commencer d'ici quelques jours à l'Assemblée nationale. Mais vu que c'est une loi au rabais, on ne devrait pas aller bien loin. Et d'ailleurs, toujours sur le site Reporter, il y a une interview exceptionnelle de Barbara Pompili. Si vous voulez vous marrer, c'est l'occasion ou jamais. Elle ne répond jamais, elle ment une fois sur deux, elle botte en touche. C'est assez incroyable. J'ai tiré un petit propos principal. Le site Reporter demande « Le projet de loi climat et résilience, il s'appelle comme ça, va bientôt être discuté à l'Assemblée nationale. Le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, et le Conseil national de la transition écologique, le CNTE, estiment qu'il ne permettra pas d'atteindre les objectifs français de réduction de gaz à effet de serre, comme l'a montré d'ailleurs l'étude dont je viens de parler. Même le Boston Consulting Group, un autre groupe d'experts, qui a émis un rapport à la demande du ministère, dit que cela ne va pas fonctionner même en cas d'application intégrale et volontariste de la future loi. Et là, il pose la question, pourquoi du coup vous défendez ce projet? Parce qu'il ne va pas permettre d'atteindre. Et là, au lieu de dire, elle répond, je défends toutes les avancées pour l'environnement, soit on agit, on se bat pour y arriver, soit on se décourage, on baisse les bras, on ne va rien faire, on abandonne. Oui, mais la question c'était, pourquoi vous défendez un projet pourri et pas un bon projet? Eh bien, elle ne répond pas. Bon, elle fait ça tout le long, c'est vraiment une incroyable politique, langue de bois, comme dans les pires exemples. Sur la loi climat, elle dit, elle ose dire, j'accepterai aucune baisse d'ambition à l'Assemblée nationale. On se dit, elle fait de l'humour en fait, parce que tout le monde lui démontre que même la loi pleinement appliquée, on est à la moitié de ce qu'il faut faire. Bon voilà, je pense que le ridicule ne tue pas. Madame Pompili en est le meilleur exemple.
Écoute, nous allons un peu rester dans ce sujet, puisque maintenant je vais vous parler Cantoche et Barbac. On va revenir sur cette affaire de menu végétarien à la ville de Lyon. Des agriculteurs sont donc venus lundi manifester devant l'hôtel de ville de Lyon. Alors le rendez-vous était destiné à dénoncer cette fameuse mesure prise par cette nouvelle majorité écolo. La mesure est de supprimer temporairement la viande des menus de cantine scolaire. On rappelle que c'est temporairement et c'est la viande, mais pas le poisson. Et puis, il reste les œufs et les produits laitiers. Alors, à côté de ça, Grégory Doucet a expliqué à Libération, sous la plume de Sylvain Chazot, on veut que 50% de la viande dans les cantines vienne d'éleveurs locaux. Donc moi, je soutiens les éleveurs locaux. Et ce sont les marcheurs, ceux qui défendaient le CETA, qui a pour conséquence de faciliter les importations d'éleveurs canadiens qui me font la leçon. On est dans l'hypocrisie totale, il faut arrêter de prendre les éleveurs pour ce qu'ils ne sont pas. Donc voilà, Grégory Doucet répond, il faut dire qu'il est largement attaqué par LR et LREM. Alors, Grégory Doucet, il se défend, encore une fois, il essaye d'expliquer qu'il n'a pas attendu le Covid ou la Covid pour souhaiter diminuer le nombre de repas avec viande à la cantine. C'était dans son programme pour les municipales. Donc, voilà, il essaye de se défendre. C'est vrai qu'il est très attaqué. Alors, on a beaucoup entendu parler d'idéologie. Moi, je suis allée regarder la définition du Larousse. Alors, c'est un système philosophique des idéologies du 18e et du début du 19e siècle qui se proposait d'étudier les idées en général et leur origine. Ça, c'est une première définition. Ensemble des représentations dans laquelle les hommes vivent leur rapport à leurs conditions d'existence, culture, mode de vie, croyances. Voilà, une idée aussi. Et puis sinon, on pourrait dire aussi, je vais terminer avec celle-là, deux définitions. Système spéculatif, vague et nébuleux. Et c'est intéressant comme du coup, tout le monde est monté au créneau ce week-end pour critiquer donc l'annonce de Grégory Doucet. Alors, c'est Gérard Darmanin qui a lancé la première salve le samedi. Samedi 20 février, il a publié des gazouillis sur son compte Twitter. Et il parle d'idéologie scandaleuse et il explique que de nombreux enfants n'ont souvent que la cantine pour manger de la viande. Pour lui, c'est une insulte aux agriculteurs doublée d'une politique moraliste. Voilà donc pour l'idéologie. Mais c'est vrai qu'il a attaqué fort. Alors évidemment, de notre côté, on a aussi un Gérard qui a su se manifester. Gérard Collomb qui s'est fait vite quand même renvoyer, moi je trouve, dans les cordes. Puisqu'on lui a quand même rappelé que lui-même avait pris cette décision, qu'à l'époque, personne ne s'était jeté sur sa petite personne. Mais il a pris fait écho pour les agriculteurs et agricultrices. Justement, le ministre de l'Agriculture, alors lui, je veux dire, il s'est quand même bien marré, puisque Julien de Normandie a expliqué que c'était quand même assez incroyable qu'on puisse mettre ça en place. Nous ne sommes plus dans une situation d'urgence face à une situation exceptionnelle. Ça, c'est sa réponse au fait qu'il y a une différence entre Gérard Collomb et Grégory Doucet dans la décision de supprimer temporairement la viande des menus à la cantine. Rappelons que l'idée de Monsieur Doucet, c'est de faciliter le service à la cantine et la préparation. Et donc, on a un certain nombre d'élus qui se sont exprimés ce week-end. On a par exemple l'élu LR Béatrice de Montille, qui, elle, dit « La majorité écologiste profite de la crise sanitaire pour faire passer des mesures idéologiques sans aucune concertation. » Là encore, de l'idéologie. On a aussi le député de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, éleveur bovin. Lui, on le connaît surtout parce qu'il a de la gouaille. Hein. Lui aussi, il a gazouillé sur son compte Twitter parce que c'est des nutriments essentiels pour la croissance des enfants hein, qui sont présents dans la viande. Hein, cet argument que la viande est nécessaire à l'être humain et en particulier aux enfants pour bien se développer, ça revient assez souvent. On retrouve Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, qui lui a dénoncé une tentation totalitaire d'un courant de pensée qui veut imposer ses options à tous par la contrainte.
Alors qu'ils imposent la viande par la contrainte, mais bon, ça, faut pas le dire.
Pierre Vantaud, élu Haute-Vienne de La République En Marche, bannir la viande bovine, c'est tuer les prairies permanentes. Fini biodiversité, paysage et stockade de carbone, cohérence zéro. Gabriel Attal, lui, c'est dans le Parisien, hein, le porte-parole du gouvernement qui s'est mis aussi de la partie. Le risque, c'est d'arriver à un modèle où toute une partie de la consommation est réservée à une élite. Donc on va revenir aussi sur cette question parce qu'en fait, les dernières études tendent à montrer que la consommation dans les classes les plus pauvres semble aussi se développer. C'est plus comme avant où le paysan n'avait pas assez d'argent pour acheter de la viande. Aujourd'hui, dans les classes populaires, les gens mangent de la viande, en particulier parce que aussi on en trouve beaucoup dans les plats préparés, ça c'est certain. Et certaines accusent en fait l'industrie agroalimentaire d'avoir mis de la viande de partout et d'avoir démocratisé le fait de manger de la viande.
Enfin, dans les cantines lyonnaises, il y a déjà 40% des élèves qui ne prennent pas de viande en fait.
Oui, donc, mais voilà, mais dans les familles...
En fait, c'est déjà ça, pour différentes raisons.
Ça change, dans les familles, ça change. Alors, on a aussi qui d'autre j'ai... alors, parce qu'il a dit que c'était une honte, hein, Julien de Normandie, il s'est beaucoup exprimé, évidemment, vous allez me dire, c'est son domaine. Olivier Véran, lui, a tenté de calmer le jeu, hein, en expliquant « Je ne suis pas choqué qu'on puisse proposer des menus sans viande ni poisson à l'école. » Puis il va même plus loin, il enlève le poisson. Et puis on a notre star, hein, quand même, Barbara Pompili, qui, elle, jour après jour, remet des couches. Hein, elle a traité ce débat de préhistorique. Elle a tweeté des photos d'elle en train de manger un menu végétarien. Hein, voilà, donc elle remet des couches. Barbara. Alors pendant ce temps, on a Monsieur Macron qui semble vouloir dire qu'il faut stopper le jeu. Pour ça, il a envoyé Jean Castex qui a dit qu'il fallait cesser les polémiques autoportraits, parce qu'a priori tout ça leur fait beaucoup de mal. En tout cas, dans la montagne, j'ai trouvé celui qui nous manquait quand même. Ça a été publié sur le site le 24 février, donc cette semaine, où Laurent Wauquiez a pris la parole, enfin en tout cas est cité, et pour lui, il trouve que la crise a bon dos. La ville du Puy et les communes rurales servent de la viande et Lyon n'y arrive pas. Sous-entendu, mais vous êtes des abrutis dans la grande ville.
Ouais, enfin, quand il aura autant d'élèves à gérer, on en reparlera. À gérer dans les cantines avec le temps de passage et tout ça. Mais même si c'était une excuse, c'est dans le programme, on rappelle des Verts, hein, de faire diminuer, prendre conscience que manger carné à tous les repas, c'est une mauvaise idée pour l'environnement et qu'on peut vivre en mangeant beaucoup moins de viande. Même si ce n'est pas la raison de la mise en place ici de cette pratique-là, il y a l'idée de développer d'abord... On rappelle que la moitié devra venir de l'agriculture locale, ce que fait pas du tout hein, le père Wauquiez, et bio, ce que fait pas non plus le père Wauquiez qui attaque le bio en permanence, et diminuer aussi par là même la consommation de viande pour des raisons, on rappelle aussi pour des raisons de santé, hein. Il n'y a pas que l'environnement qui est en cause dans la consommation de viande rouge et la viande bas de gamme notamment, parce que l'autre il parle de vaches qui ont vu la nature, les champs et tout ça. Quand vous mangez du poulet à la cantine, je ne suis pas sûr qu'il ait vu la nature, le petit poulet de la cantine.
Alors, autre mot qui revient souvent dans la presse, c'est le mot cacophonie. On va le retrouver sous la plume de Jules Pecnard pour BFMTV.com. Il nous parle aussi, lui, de bisbille entre marcheurs et en rappelant que le ministre de l'Agriculture nie toute cacophonie au sein du gouvernement. Ah bon, on y croyait. Sous la plume d'Anthony Berthelier, ce 23 février, dans le Washington Post, on peut lire « effilocher de cacophonie à la sauce marcheuse ». Donc, c'est un mot qui revient. Et puis, dans le monde, Olivier Fay et Alexandre Lemarié se pose quand même la question si tout ça permet pas aussi d'oublier le débat islamo-gauchisme qui commençait aussi à fracturer LERM.
Ouais, ça ressemble à ça, hein, parce que cette polémique, elle avait aucune raison d'être. C'est vraiment une instrumentalisation de la part des politiques pour parler, voilà, pour qu'on oublie tous les propos racistes limites qu'ils ont sortis ces derniers temps. Hein.
Alors, comme je vous le disais, il y a les agriculteurs qui sont venus à la ville, mais on a beaucoup entendu la FNSEA et la
FDSEA,
en particulier ici. Alors, je suis tombée sur leur site, j'espère que c'est le vieux des années 90 qui bizarrement est revenu. Sinon, je ne sais pas, il faut trouver un truc pour communiquer avec le monde extérieur. Alors, la FDSEA du Rhône explique « Nos modèles d'élevage apportent une complémentarité agronomique, une biodiversité. Hein, » C'est le scandale incroyable, c'est vraiment catastrophique. C'est ce qu'on entend aussi dans la bouche ou les écrits de Jacqueline Riedinger-Balzer, présidente de la Confédération internationale de la boucherie et de la charcuterie. Alors là, on est au niveau 88-89 à peu près, au niveau du site internet. C'est un affront pour la filière, explique-t-elle. Hein, c'est absolument scandaleux. Bon, elle est aussi présidente de la Corporation des bouchers charcutiers d'Alsace, donc elle représente quand même un petit peu du monde, hein, cette Jacqueline.
La charcuterie, on rappelle, hein, qui est classée cancérigène probable.
Voilà.
Bon, pour
mais
dire...
elle explique diaboliser notre secteur, c'est agaçant. Oh là 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 là. Donc, j'ai été chercher un petit peu et on a trouvé forcément des articles qui viennent nous parler des bouchers. Alors, sur progrès.fr, sous la signature de DT, nous trouvons cet article « Menu sans viande à la cantine, ce boucher lyonnais qui offre des steaks hachés aux enfants ». On nous donne même l'adresse, hein, d'ailleurs, pour nous dire où est-ce qu'on peut aller soutenir ce fameux boucher lyonnais. Là n'est pas la question. Il explique que la filière bovine est en souffrance en cette période difficile et je suis solidaire de leurs difficultés. Lorsque j'ai entendu que la ville de Lyon voulait supprimer la viande des menus des cantines, je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose et donc de distribuer des steaks. Voilà l'idée. Sous le Parisien par Martin Antoine, ce 24 février, on a pu lire un menu spécial gibier à la cantine face à la prolifération des sangliers. Ça, c'est en Alsace, et la première phrase est au menu ce midi. La chef vous propose parmentier de gibier et hamburger au sanglier, lance avec le sourire Laurence Zumsteg, la responsable du restaurant scolaire au collège Kolsterwald de Valais, c'est dans le Bas-Rhin, et donc il n'y a pas d'accent. Donc voilà, on a aussi ce genre d'article qui vient nous parler, l'air de rien, du sanglier. Parce qu'il y en a trop, paraît-il, donc il faut caser la viande. Donc du coup, on la fourgue au petit, aux collégiens et tout ça. Enfin, vous voyez quand même un peu l'idée quand même, qui est sous-entendue, parce que c'est ça, cet article. dans France, sur francebleu.fr, on lit un affront pour les éleveurs qui reviennent donc sur les propos de Jacqueline dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'elle a quand même été pas mal recitée. On pourrait parler aussi de Lyon Capitale, hein, du 20 février, qui donne la parole à la FDSEA du Rhône, parce que trop c'est trop, proclame d'entrée la FDSEA du Rhône dans ce communiqué co-signé avec Jeunes Agriculteurs Rhône. Donc, il paraît qu'il y a... Alors, dans cet article, j'ai appris que les éleveurs font savoir qu'ils viendront avec des arguments techniques et chiffrés de l'impact négatif d'imposer un tel régime aux enfants de la deuxième ville de France. J'attends donc voilà. le rapport donc, technique.
Dans ma première info, on parlait de l'impact négatif de l'environnement, sur l'environnement de l'industrie et de l'élevage productiviste. Modèle défendu hein, par la FNSEA, la FDSEA, les jeunes agriculteurs. Hein, on n'est pas à la Confédération paysanne et ils sont le bio est ultra minoritaire chez ces industriels, parce que c'est des industriels de l'agriculture et pas voilà, c'est pas le petit éleveur qui élève ses 5 moutons, ses 3 vaches et des trucs comme ça. Donc oui, ils nous font quand même bien rire avec leur argument à 2 balles. Ils défendent une industrie, ils défendent pas une manière de vivre, ils défendent pas la campagne, ils défendent pas tout ça, ces gens.
Alors, on a des articles aussi qu'on fait intervenir quand même des experts. Hein, c'est le cas de Florian Beau, journaliste à BFM Région, qui demande son avis au politologue Romain Metz, professeur de sciences politiques à Lyon 2, qui explique, c'est vraiment l'idée de dire « les écologistes sont un ennemi au niveau national », résume donc ce fameux Romain Metz. « Je suis prêt à utiliser un argument extrêmement contestable qui va fonctionner chez mon électorat national, qui ne va jamais voir le dessus de cette affaire, qui se dira, c'est vrai, que ces écologistes sont quand même très extrêmes, ce sont des Khmers verts très dangereux », donc analyse ce politologue dans la page de BFM TV. Com.
Il n'a pas tort, hein, ça sent la prépa à la présidentielle. On essaye d'oublier le débat moisi sur l'islamo-gauchisme et on commence à casser les écolos qui ont eu le vent en poupe. Regardez, c'est des Khmers verts.
Alors, le LCI du 23 février, par Léa Lucas, nous fait une affaire un peu de lutte de classe. Si, on peut lire des trucs quand même. Puisque LCI et Léa Lucas est allée interroger la sociologue Laurence Thibert pour savoir comment maintenant on mange de la viande, dans quel état d'esprit. Alors, elle explique donc que c'est culturel, que c'est un symbole. Il y a un statut fort de manger la viande, que malgré tout les choses changent, mais d'abord dans les classes les plus aisées pour moins manger de viande, qui va ensuite, comme un certain nombre de phénomènes, explique-t-elle, rejoindre les classes les plus basses de notre société. En gros, c'est, voilà. Donc en gros, elle nous parle quand même pas mal de classes. Elle parle des classes moyennes et des classes populaires. Elle emploie le terme, hein, cette sociologue. Donc voilà, on en a quand même quelques-uns comme ça qui ont eu besoin d'aller chercher des experts pour parler du sujet d'une manière un peu différente, parce que c'en était au 12e, hein, quand même, de sujet parfois sur certaines pages. Et puis, on a ceux qu'on ne sait pas bien si c'est du soutien ou si c'est juste parce que, bon, on veut être tout à fait neutre dans notre métier de journaliste. Mais France 3 Région, Sophie Courageau et Jérémy Chevreuil ont fait un sujet à Besançon qui se nomme « Menu sans viande à la cantine, la ville de Besançon veut doubler la mise ». Et donc on apprend que le mini végétarien existe depuis 13 ans à Besançon, c'est-à-dire depuis mars 2008 hein, quand même, donc ça fait un petit moment. Donc la ville elle est gérée par une écologiste Anne Vigneault et qui comprend pas bien la polémique. Elle trouve qu'il n'y a pas de raison d'être. Parce que chez elle, ça se passe très bien, jamais personne ne polémique. Les repas sont là depuis un petit moment, et en plus de ça, ils veulent accélérer le processus pour qu'il y ait de plus en plus de repas végétariens au cours de la semaine. Donc, de l'extérieur, si vous voyez, il y a aussi des gens qui se disent, ils sont bizarres là-bas, hein, ils font une affaire de pas grand-chose, en tout cas chez nous, ça se passe bien. Donc ça, c'est un article de France 3 Région, France TV Info. Et puis... qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre ? Ah oui, il y a quand même aussi, il fallait dire qu'il y a quand même des histoires de Covid aussi dans les histoires de cantine qui n'ont rien à voir. Mais comme on parlait de cantine, je me suis dit que c'était l'occasion. On voit pas mal de ces articles régionaux. Là, c'est la dépêche.fr sous la plume de Gérald Camier, publié le 18 février, qui nous explique qu'à Castanet-Tolosan, il n'y a pas de place à la cantine, donc les élèves mangent dehors avec des repas froids. Ce qui arrive dans plein d'endroits, alors vous allez me dire, ça dépend l'âge, bien évidemment. vraiment, là en ce moment il fait beau, donc peut-être pour des collégiens ça peut être sympa, mais ce n'est pas toujours, et c'est surtout pas un choix volontaire de mettre les élèves dans la cour, c'est juste qu'il y a des problèmes très techniques. Sinon aussi, j'aurais bien aimé vous raconter ça, malheureusement ça va être bref, c'est dans le progrès. J'ai appris qu'à Longwy-sur-le-Doubs, la cantine scolaire est aux normes en vigueur. Bon, j'ai pas la faim parce que c'était un article à payer et que je l'ai pas voulu payer. Voilà, mais il se passe des tas de trucs dans les cantines, donc on espère quand même qu'à Longwy-sur-le-Doubs...
Avant, ça devait pas être terrible, maintenant c'est énorme. Mieux.
Voilà, et puis je vais terminer mes histoires d'agriculteurs et d'agricultrices. C'est ce projet de Xavier Niel que j'ai lu sur bfmtv.com de ce 25 février, c'est-à-dire d'aujourd'hui, où j'apprends un peu plus de choses sur cette école Hector. Donc c'est Xavier Niel, le patron de Free, que nous connaissons bien, qui va former 2000 jeunes agriculteurs et agricultrices à partir de la rentrée prochaine. Alors il explique qu'en fait c'est un retour aux sources pour lui, qu'il a eu des grands-parents agriculteurs et éleveurs. Et qu'il, après des histoires de technologie, il se lançait un nouveau pari, finalement, c'est un peu ça l'idée. C'est qu'ils vont accueillir dans cette école les 2000 élèves. Elle ressemble un petit peu à l'école 42, donc cette école d'informatique financée par Xavier Niel. Alors du côté de la FNSEA, on se dit sceptique. J'ai lu que ça c'est un mot qui revient souvent aussi, quand il y a écrit FNSEA, sceptique derrière, ou méfiante. Là, donc il paraît que c'est de la méfiance au sujet de cette école. Ils ont peur que Xavier Niel ne prône comme il ne mange pas de viande, qu'il pourrait prôner certaines valeurs dans cette école. Ah, alors que lui-même explique qu'il est fils d'éleveur, bon, ça peut quand même faire peut-être douter de son parti pris final. Mais voilà, ça les inquiète un petit peu tout ça. En fait, ce qu'ils ont peur, c'est qu'ils transforment précisément la viande de l'animal en viande de laboratoire, comme dans la Silicon Valley, et puis-je lire. Et c'est très drôle quand même, parce que c'est Christine Lambert qui parle de ça sur BFM Business, donc Christine Lambert, patronne de la FNSEA. Donc voilà, il y a des idées qui sont lancées, et puis ça laisse sceptique.
Alors j'ai mon info monde de merde, tu sais, je vais revenir sur, ça avait été annoncé un petit moment, sur Balance ton dealer, puisque Gérard Darmanin, donc le ministre d'extrême droite de l'Intérieur, était à Lyon, il a donné des interviews et on lui a reposé des questions sur cette plateforme de dénonciation, un truc assez traditionnel pour les Français qui ont fait ça pas mal pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Le ministre de l'Intérieur est l'héritier de cette tradition qu'il remet en avant. Donc voilà, il l'avait annoncé en décembre dernier, c'était un entretien accordé au journal Le Parisien. Donc une plateforme. Donc on est dans le monde moderne, on n'envoie plus des lettres anonymes pour dire « attention, là il y a des dealers, des méchants dealers ». Un dealer, on va prendre le nom, des méchants vendeurs de drogue. On va arrêter les anglicismes. Là, il y a un méchant vendeur de drogue. Alors, ça va être donc sur un site, vous pourrez cliquer et balancer les méchants vendeurs de drogue. Donc il a expliqué tout ça, ce sera notamment lié au site qui s'appelle moncommissariat.fr, je ne suis pas allé voir s'il existait déjà ce moncommissariat.fr, donc pour permettre, comme il dit, de signaler les nombreux points de vente de drogue, c'est ça dont il est question. Il dit que les citoyens doivent être actifs dans ce combat, montez des milices, allez-y, faites ça, ça va être bien sous-entendu, bien sûr, dans ses propos. Il faut aider la police avec ses dénonciations. Alors, ce qui est intéressant de voir avec Darmanin, alors maintenant on a compris qu'il l'a dit lui-même, il a des idées d'extrême droite, il les utilise parce qu'il veut courtiser les électeurs de Marine Le Pen. C'est lui qui l'a dit. Donc, il met en œuvre ces idées nauséabondes issues de la droite dure, de l'extrême droite qu'on connaît bien, cette politique anti-drogue ultra-répressive, bon, finalement qui a été pas mal partagée sur l'échiquier politique, en France, pas forcément dans les autres pays. Ce qui est triste, c'est quand on sait que la drogue la plus utilisée en France est la plus dangereuse, celle qui tue le plus, qui le rend le plus malade, qui est le plus responsable de violence, c'est l'alcool. Alors lui, il dit jamais drogue illégale, du coup on pourra balancer son vendeur d'alcool. Alors oui, là il y a un magasin, monsieur, il vend de l'alcool, c'est mal. Quand on sait aussi que les politiques de santé publique sur l'alcool ont été mises à mal ces dernières années, On se rappelle qu'avant, c'était impossible de faire de la pub pour l'alcool. Maintenant, c'est possible. La loi Evin, elle a été écorchée au maximum. On se dit, ils se foutent de notre gueule. Et quand on sait que dans le monde, les gens qui meurent le plus d'une overdose de drogue, c'est lié aux médicaments officiels, les opiacés, vendus donc par d'autres vendeurs de drogue, qu'on appelle les pharmaciens, et que là, il n'y a rien ou quasiment qui est fait, on se dit, il y a un souci là. Et un souci, bah, c'est comme d'habitude, hein, une politique discriminante, discriminatoire sur les drogues. La drogue dure comme l'alcool, c'est bien parce que c'est traditionnel. La drogue officielle médicamenteuse et opiacée, qui est, c'est bien aussi parce que c'est donné par les médecins, c'est un truc officiel. Par contre, fumer de la beuh, c'est mal. Alors c'est beaucoup moins dangereux tout ça, mais c'est mal. Hein. Voilà. Et on en est là aujourd'hui. Quand on voit les politiques, l'échec des politiques répressives, on se dit que M. Darmanin, à part sortir des idées qu'il a piquées chez les petits fachos des RN ou du FN avant, on ne voit pas bien quel est l'intérêt. La majorité des pays changent de comportement vis-à-vis de certaines drogues. Il y en a même qui légalisent totalement, qui changent de comportement vis-à-vis des utilisateurs, qui ne les considèrent plus comme des délinquants, mais comme des malades potentiels sur lesquels il faut se poser des questions. Et si ce n'est pas des malades, si c'est juste récréatif, et ben on les laisse tranquilles. Là, on sent bien que Darmanin, il est issu du monde d'avant. Il est issu de l'extrême droite, il n'est pas issu du monde progressiste, il ne connaît pas le système de santé, il ne sait pas l'impact que ça peut avoir sur les êtres humains et l'intérêt ou le non-intérêt à utiliser, boire, manger, fumer certaines drogues. Voilà, je crois qu'on est encore dans le monde d'avant, il est vraiment ultra largué ce gars. Mais bon, vous pourrez balancer votre dealer, votre revendeur de drogue. Alors, pas votre marchand d'alcool, je pense qu'ils le prendront mal. Mais vous pourrez essayer. Moi, je serais assez pour d'essayer de balancer son revendeur d'alcool, même si on y va, juste pour se marrer. Bon, bref, un truc très fort et que j'ai trouvé très intéressant. L'info est tombée aujourd'hui et la condamnation date d'hier. C'est la peine de prison prononcée en Allemagne contre un ex-agent de sécurité syrien. Alors ça constitue vraiment un précédent historique sur la Syrie. Ça ouvre la voie à la traduction en justice de certains responsables du régime sanguinaire de Bachar el-Assad. Donc là, c'était des gens qui étaient... Alors c'est une personne qui est accusée d'actes de torture. Alors je reviens un petit peu dans ce qui s'est passé. Donc c'est la haute cour régionale de Koblenz en Allemagne, hier, mercredi 24 février, qui a condamné un ancien membre des redoutables services de renseignement syriens, il s'appelle Eyad Al-Gharib, à une peine de prison de 4 ans et demi d'emprisonnement pour complicité de crimes contre l'humanité. Donc c'est fort, complicité de crimes contre l'humanité. Il prend que 4 ans, on va comprendre pourquoi par la suite. Alors, ce verdict, il est symbolique et important. D'abord, ça donne espoir aux activistes syriens, aux défenseurs de droits de l'homme syriens, aux avocats, qui s'occupe de cette cause, dans le monde et en Allemagne surtout, que les tortionnaires, les sanguinaires à la tête de la Syrie, s'ils se déplacent dans certains pays, ils vont avoir des comptes à rendre. Ça, c'est toujours bien. Dans les faits, ça a été possible parce que Eyad Al-Gharib, il s'est barré de Syrie en 2011 et il s'est fait arrêter un peu plus tard. Non, il s'est barré de Syrie en 2013, et il s'est fait arrêter en Allemagne en 2019. Du coup, on a pu le poursuivre. S'il était resté en Syrie, ça n'aurait pas été possible. Alors, ce qu'on lui reproche, ça date de 2011, je m'étais trompé dans les dates, où il avait participé à l'arrestation de 30 manifestants qui avaient ensuite été allègrement torturés dans les geôles du régime tortionnaire syrien. Alors, c'est le procureur allemand Jasper Glinge qui s'explique pas mal là-dessus, notamment sur le fait que l'idée, c'est de donner un signal aux tortionnaires, vous n'êtes plus les bienvenus dans certains pays d'Europe. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, c'est le seul tribunal au monde qui est arrivé à prouver, parce que ce n'est pas facile à prouver, hein, que ces gens, issus du régime syrien, avaient commis des crimes contre l'humanité. Hein, donc c'est très très bien. Alors selon l'un des avocats, l'un du plaignant, Patrick Crocker, la présidente de la cour, qui s'appelle Anne Gerber, a brossé un portrait assez réaliste du système sécuritaire et tortionnaire de la Syrie sous Bachar el-Assad. et tout ce qui a pu arriver derrière. Alors, ce que je n'ai pas encore raconté, c'est quand il s'est fait arrêter aussi avec son supérieur hiérarchique, qui s'appelle Anwar Raslan. Alors lui, son procès va reprendre là, le 10 mars. Et lui, il risque beaucoup plus, parce que d'abord c'est un responsable, et que la relative clémence, ou la clémence on va dire, du sous-fifre tortionnaire, elle vient du fait que lui, il a balancé. Il a dit « oui, voilà ce que j'ai fait, et voilà qui m'a donné des ordres ». Donc ça, alors on peut toujours discuter sur de ces gens qui balancent, et qui en échange ont de la clémence, mais c'est grâce à ça en fait que le droit peut progresser et s'attaquer aux responsables qui ont quand même donné les ordres. Les autres, ils les ont exécutés. C'est pas forcément bien mieux, mais c'est un peu moins pire. Mais en tout cas, ceux qui sont donneurs d'ordre vont pouvoir être poursuivis si jamais ils se déplacent. Alors pour l'instant, c'est l'Allemagne. Alors rappel, hein, c'est une procédure assez classique qui existe dans pas mal de pays, qui existe en Suède, en France, sur une compétence universelle qui permet de poursuivre des auteurs de crimes, notamment les crimes graves, le crime contre l'humanité, des choses comme ça, quelle que soit leur nationalité et quel que soit l'endroit où ils ont commis les crimes. Donc ça, la France, y a. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer ça en France? Ça va être compliqué. Je vous rappelle que en France, pendant la guerre, bon, la guerre est finie, mais les tortionnaires sont toujours au pouvoir, hein, on a eu pas mal de députés qui sont allés là-bas. Il y a un groupe d'amitié parlementaire France-Syrie. Alors, on a vu Thierry Mariani, par exemple, des Républicains, faire un séjour de soutien à Bachar el-Assad. Il avait été accompagné par un ancien du Front National de la Jeunesse, donc un militant d'extrême droite, Julien Roche-Di, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis, il y a eu un beau voyage avec au moins 6 parlementaires, des gens du PS, Bernard Cazeau, des gens des Républicains, Jean-Marie Tétart. C'est pareil, qui étaient allés rencontrer. Alors, non, rencontre, on est neutre, mais en fait, c'était une rencontre qui soutient du régime de Bachar el-Assad. Donc, certains parlementaires en France ont un peu du mal à reconnaître ce qui s'est passé. Ils sont toujours plutôt soutien du régime tortionnaire. Donc, je ne sais pas si un procès comme ça pourrait avoir lieu en France. Vous me direz, la justice est indépendante et on pourrait avoir effectivement des juges qui s'emparent d'une affaire si un tortionnaire syrien arrive sur le territoire français et qu'il est arrêté, reconnu et arrêté. Voilà. Bon, on a quand même plus de doutes, mais ça pourrait arriver. Voilà ce que je voulais dire.
Ah, écoute, on aurait pu aussi souligner cette bonne idée quand même, c'est que la dernière statue de Franco en Espagne a été déboulonnée. Ouais. Cette semaine, c'était mardi, c'est à Melilla La Fierra, sans l'accent, c'est donc en Espagne. Le parti Vox s'est opposé au déboulonnage lors du vote.
Parti d'extrême droite.
Partido Popular s'est abstenu. C'est toujours
parti républicain qui est aussi très à droite.
Ouais. Voilà, mais c'est une bonne chose.
Oui, voilà. Nous, on fait partie des gens qui pensent que...
un petit déboulonnage de temps en temps, ça fait pas de mal.
Ne pas oublier le passé, c'est important. Glorifier les tortionnaires... c'est peut-être plus une bonne idée. Donc on peut enlever les statues qui sont des gloires, hein, des glorifications de certains personnages. On a ça à côté de Radio Canu, on a une glorification à Sergent Blandan, hein, qui est allé massacrer des Algériens pendant la guerre pour coloniser l'Algérie. Ça serait bien que cette statue tombe aussi.
Je termine avec deux choses. Mon article préféré quand même sur cette affaire de Cantoche et de Barbac, c'est cet article approfondi et je pense bien sourcé du Gorafi.fr qui nous a fait un papier. Le gouvernement va ordonner le parachutage de carcasses de viande sur les écoles de Lyon. Donc il paraît que ça va durer aussi longtemps que ce sera nécessaire. Donc ça va être. Alors techniquement, hein, quand même, c'est important que vous le sachiez, les carcasses seront parachutées à la verticale d'une dizaine de cours d'école qui ont retenu notre attention. Donc c'est quand même une grosse logistique à engager là. Après.
Je crois que la NASA a aidé en fait.
Alors. Et à l'intérieur, des carcasses, hein, parce qu'il y a la carcasse, mais à l'intérieur, il y a un kit de cuisine qui va permettre la découpe de la viande, le tronçonnage des os, pour la moelle, hein, ça c'est nutritif, il paraît que c'est très très bien. Et puis les enfants pourront tailler eux-mêmes les quartiers de viande et les distribuer autour d'eux. Il y a aussi des glacières, hein, évidemment, parce que l'important quand même en période de Covid, c'est d'avoir aussi une alimentation qui ne soit pas altérée par des conditions climatiques un peu particulières ce mois de février. Voilà, quand même, ça c'était mon article...
C'est le Gorafi.
Préféré, le Gorafi, ouais. Voilà. Et puis je voudrais juste terminer, puisqu'on a tout à fait le temps, pour dire que vous pouvez voir, si vous ne l'avez pas vu, ce documentaire de Fabien Bézia et Agnès Poirier qui s'appelle « Nos paysans », qui est passé sur France 2... qui a plusieurs mérites, c'est déjà de nous intéresser aux paysans et à l'agriculture, qui a des difficultés, il faut le dire quand même. Mais il n'y a pas que la FNSEA dans la vie, hein, c'est aussi ça qui est intéressant. Ce documentaire retrace plusieurs générations, depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui, avec voilà, un fil conducteur, c'est l'évolution de la pratique, du métier et de l'environnement avec des stratégies politiques autour. Mais c'est aussi donner la parole à des agriculteurs et des agricultrices qui parlent de leur famille aussi, parce qu'il y a de la mémoire paysanne qui s'est transmise. Et puis dans ce documentaire, on a un certain nombre de documents rarement vus et puis des images d'archives qu'on peut connaître, mais qui sont toujours, moi je trouve, très émouvantes à regarder parce que c'est un patrimoine historique. On a l'image qui bouge d'une époque qui nous paraît très lointaine, mais ça nous permet aussi de peut-être visualiser pour ceux et celles qui l'entendent moins dans les livres, la précarité des paysans en France, jusqu'à encore assez récemment, et aujourd'hui une précarité qui est de l'ordre du manque de revenus. Hein, voilà. Mais il y avait une grande pauvreté, et donc c'est plutôt une belle parole donnée aux vieux et aux jeunes dans ce documentaire. Donc voilà, c'est à revoir évidemment sur les sites de Replay. C'est tout ce que je voulais ajouter.
Oui, on pourrait vous conseiller aussi de regarder la série Paris Police 1900.
Nous pourrions en reparler la semaine prochaine ? Non ? Eh bien alors allons-y.
Je ne sais pas, alors. Si tu veux, si tu avais prévu la semaine prochaine.
Non, allons-y. Non.
Oui, c'est une série qui est diffusée sur une chaîne de télé française, qui se passe donc au passage du 19e au 20e siècle, donc il y a un peu plus de 100 ans, 120 ans. Au moment où la France sort du procès Dreyfus, où ce militaire est condamné parce qu'il était juif, donc une France ultra-raciste, et on a voilà, une affaire policière. Alors c'est une histoire policière avec des cadavres découpés qui sont trouvés, mais qui sert de prétexte à montrer l'état de la police de cette époque-là, une police raciste. Ah, déjà à cette époque, vous me direz, une police politique, ce qui est très différent d'aujourd'hui, ça par contre. Une police qui n'est pas armée, ça change aussi, et puis toute l'histoire de ces ligues antisémites qui ont pignon sur rue, qui ont des journaux qui sont vendus dans la rue. On a un climat raciste assez incroyable. La France est vraiment partagée en deux, c'est ce qu'on dit toujours. Alors je ne sais pas si c'est 50-50, mais avec une moitié ultra raciste et surtout ultra antisémite pour l'époque, et l'autre moitié qui serait pas du tout pas raciste et pas antisémite.
Ah, c'est vrai que la série, elle a de beaux avantages. D'abord, il y a décorations, costumes qui sont absolument magnifiques pour remettre aussi dans l'ambiance de cette période. On a une construction de Fabien Nury qui est assez classique, mais qui fonctionne plutôt bien à la fois dans le côté historique et puis, comme tu le disais, hein, cette histoire policière qui se met par-dessus. C'est vrai que dans les premiers épisodes, on sent Fabien Nury avoir besoin de construire vraiment le sujet historique.
On
est profondément
ça.
Dedans, effectivement. Tout de suite, il met dans une ambiance de violence. Il se sert de personnages et d'éléments qui ont été réels hein, dans cette histoire française. C'est l'anti-juif, ce journal des Guérin, par exemple. On a une personnage de femme qui est tout à fait existence. On a le préfet Lépine, qui va être celui qui va moderniser la police. Avec le téléphone, les vélos, les équipements. Au fur et à mesure, il va moderniser, parce que c'est une époque où la police, c'est de la troupe. Elle est là en nombre. Il y a évidemment quelques inspecteurs. Ouais. C'est très masculin, c'est très violent. Il y a des groupes, des clans, de la sale réputation. Et puis, il y a ces ligues violentes, antisémites qui existent, qui ont pignon sur rue, qui sont plutôt bien décrites. On a les députés qui arrivent, enfin voilà, il y a du personnage réel qui se mêle à de la fiction. Alors c'est vrai que le truc des fois, c'est qu'on a toujours envie d'aller voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, je sais pas, ça veut dire quand même que ça nous donne envie quelque part de mieux comprendre notre histoire. Et c'est une période que moi je trouve qu'on connaît pas bien et qui est pourtant, va amener une fracture par la suite, c'est-à-dire vraiment cet antisémitisme.
Qui est toujours là.
Qui est toujours là, que la guerre, la seconde guerre a... modifié finalement dans son existence. Il y a eu après évidemment le Front Populaire qui a amené aussi d'autres discours et d'autres choses. Mais voilà, ça nous raconte aussi une classe sociale, c'est-à-dire ces gens qui vivent dans des chambres de bonne, la logeuse, ce système aussi particulier du loyer, les quartiers juifs séparés, déjà aussi eux-mêmes attaqués, la présence des femmes avec ce rôle d'avocate femme non reconnue.
Voilà, ah oui, parce que pour le coup, on découvre aussi le sexisme de cette époque qu'on connaissait déjà, parce que même un des personnages principaux qui est censé être quelqu'un d'un peu mieux que les autres, c'est un macho violent, un imbécile... voilà, c'est assez incroyable ce qui montre. Fabien Nuri aime bien, alors c'est un des meilleurs scénaristes de BD hein, qui est actuellement. Il a fait des choses assez incroyables, toujours souvent en lien avec l'histoire, et il aime bien reprendre l'histoire et construire une histoire avec un petit H autour de l'histoire avec un grand H. Donc là, je trouve qu'il s'en sort pas mal. Bon, j'étais pas fan au début de la manière de jouer des comédiens et des comédiennes ou des acteurs et des actrices, mais finalement, on s'accroche vraiment à l'histoire. Et le plus intéressant, c'est presque le fond historique, c'est qu'on est dans l'ambiance de l'époque, et franchement, ceux qui disent c'était mieux avant, ça marche pas avec le début du 20e, c'était juste apocalyptique, atroce, tout est presque pourri, et finalement le seul personnage qui s'en sort pas mal dans le film, c'est le préfet Lépine, moi je trouve.
Alors on se retrouve avec le personnage qu'on attend, c'est-à-dire un homme droit dans ses bobottes, pour la République, intelligent, bourgeois. Donc finalement on n'est pas déçu par la manière dont ce personnage est présenté, comme la manière dont il est joué. On a le personnage finalement, moi je l'imagine pas vraiment autrement, ni sympa. Je pense que j'aimerais pas me retrouver face à lui, très sincèrement.
Tu risques rien, il est mort.
Oui, mais enfin voilà, dans l'idée. Marc Barbet, j'étais en train de chercher le nom de ce comédien. Voilà, je suis d'accord avec toi, on a parfois un jeu qui est un tout petit peu emprunté.
Un peu théâtral.
Et qui aurait besoin peut-être de se libérer, mais c'est, voilà, il y a de jolies performances hein, malgré tout. Et puis des personnages tous détestables.
Ouais, je crois que c'est ça en fait. À part Préfet Lépine, qui est un peu sauvable.
C'est pour vous dire où on en est quand même.
Ils sont tous détestables.
Part de base.
Sauf les anarchistes, bien évidemment, mais on a un petit cœur pour les anarchistes. D'ailleurs, c'est intéressant, je ne suis pas allé vérifier si c'était vrai, mais Lépine, ça va jusqu'à la première tentative de coup d'État de l'extrême droite de cette époque-là. Il y en aura eu plusieurs, il y aura la cagoule plus tard. Dans cette tentative de coup d'État par certains élus de l'extrême droite et des Guérins, là, qui avaient ce fameux journal horrible là, qui s'appelle l'Anti-Juif. C'est les anarchistes qui vont aider, par des actions ultra-violentes, le préfet Lépine à empêcher ce coup d'État. Donc c'est un truc, une sorte de pirouette qui est plutôt pas mal. Donc voilà, du coup, Fabien Nuri, si vous ne savez pas, c'est forcément quelqu'un qui est plutôt à gauche, vu ce qu'il a voulu montrer en prenant cette période-là, ces gens-là. Parce que c'est réaliste, hein, ils étaient comme ça, ces gens. Ils sont détestables, racistes, antisémites, tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'était plutôt bien vu, moi je trouve, cette série.
Ouais, alors le préfet Lépine, il a, par sa position d'autorité, il va quand même aussi s'en prendre largement aux anarchistes, qui certains, donc oui. Il va y avoir des décès, mais de son commandement, enfin, je veux dire, de sa décision. Hein. Donc voilà, c'est juste pour dire ça, que en fait, cette partie sur ce siège au sein hein,
du journal
L'Anti-Juif, est très présenté très brièvement, alors qu'en fait ça a été à l'époque toute une affaire.
Ça a duré plus d'un mois,
qui a mobilisé les médias d'époque, hein, c'est-à-dire que les gamins dans la rue en train de t'agiter le journal sous le nez, hein, ça faisait sensation, et il a beaucoup été critiqué sur sa méthode, prétendument pour ne pas blesser plus de gens à l'intérieur, mais surtout parce qu'en fait, comme beaucoup de cas... soit on rentre dedans et on défonce tout. Et puis il y avait cette espèce de fierté où il était persuadé que la police allait pouvoir être aussi plus forte que ces troubles faits finalement.
J'ai l'impression qu'ils avaient peur aussi que les ligues soient trop puissantes et qu'elles puissent réellement prendre le pouvoir et réussir cette tentative de coup d'État. Je crois que c'est la fin de ce Canu Info. Je vais te laisser dire au revoir.
Nous allons donc nous retrouver, nous l'espérons, la semaine prochaine pour une nouvelle émission, toujours en direct, nous l'espérons bien. On vous laisse avec d'autres émissions, les bandes continuent, vous savez tout ça par cœur, vous savez qu'il y a un site internet sur lequel vous pouvez regarder un peu des infos, la grille de programmes, et puis réécouter en ligne ou télécharger les sublimes émissions que nous vous préparons tous et toutes. Voilà, à la semaine prochaine, ciao ciao!